Déjà, je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération, à une règle que tout le monde respecte, évidemment.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
Ah, mais c'est que t'es incroyable, un peu plus sympa, barnac, là.
Ils sont chauds, ils sont bons.
Bonjour et bienvenue sur l'Happy Hour 21h-22h le mercredi sur Radio Alpa 107.3, la meilleure radio du Mans.
Évidemment.
Et merci pour cette évidemment avec la plus grosse sincérité de ta part, Mathieu. Et oui, parce qu'aujourd'hui nous retrouvons Mathieu.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Andreas.
Coucou.
Et puis bien sûr Benji à la technique.
Bonsoir à tous.
Et aujourd'hui c'est une émission un peu particulière, un peu spéciale parce qu'on fait une émission dans le noir.
Ouais, alors on est arrivé au studio, il y avait vraiment plus de lumière. Et il y avait des endroits où il y avait de la lumière, mais bon, c'était les éclairages automatiques. Du coup, on se disait, mais il y a personne, en fait. Il y a vraiment personne. Quel bonheur.
C'était vide, il y avait personne. Vraiment personne.
Du coup, on a mis la seule lampe qu'il y avait dans le studio qui nous sert de bougie, de grosse bougie.
Alors du coup, je vous préviens tout de suite, ce soir, ça va être une émission, mais vraiment émission bricolage. On a trouvé une lampe dans le studio.
Le DIY.
On l'a mis au milieu.
De toute façon, le mot d'ordre ici, c'est adaptation.
Exactement.
À la zob.
Totalement, totalement.
C'est comme ça qu'on les aime, nos émissions, c'est quand elles sont absolument à la zob et qu'il se passe évidemment un truc au dernier
sinon,
moment qui fait que c'est la...
Ça n'a aucun plaisir, sinon, franchement.
Franchement, ça serait pas la pire heure, sinon.
Tout à fait.
Oui.
Mais du coup, qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir, dans le noir?
Andreas, vas-y.
Alors, moi, je vais faire une chronique qui s'intitule « Quand la musique classique inspire la musique actuelle ».
Ah, yes. Ah,
oh. Ça fait plaisir. Mmh. Et ben moi, ce soir, je vais vous parler d'une autre passion. Quelque chose d'autre, autre que la musique.
Tu es un homme couteau suisse. Tu as plusieurs passions.
Oui, voilà. J'ai plus d'un trou dans mon sac.
Wow.
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Commençons par quoi?
Moi, je pense qu'on peut commencer par une petite musique.
Avec plaisir.
Ah bah, c'est parti.
Super.
Yeah.
21h07 à l'horloge du studio qui marche malgré le courant ou le fait que les lumières ne soient pas encore là. Vous venez d'écouter Everybody Wants to Be an Astronaut de Royal Republic et c'est l'heure maintenant, Andreas, pour ta chronique.
Et oui, est-ce qu'on lancerait pas le jingle pour commencer ?
Avec plaisir.
Attends, je sais pas.
Classiquement.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Classiquement, la chronique qui vous parle de musique classique de façon décontractée. Alors, je vous explique une petite histoire qui m'a amené à ma chronique de ce soir. Donc, vous êtes tranquille chez vous et vous dites, tiens, si j'écoutais bien de la musique. Et là, vous lancez de la musique, mais pas les titres que vous connaissez déjà, mais des nouvelles choses pour étoffer vos playlists qui sont déjà bien remplies. Et vous écoutez un, deux, trois morceaux, et là, vous tombez sur un titre que vous ne connaissez pas. Mais au final, vous dites que je le connaissais un petit peu quand même. Et après renseignement, vous découvrez qu'il s'agit d'un morceau en fait, qui est inspiré d'un morceau de musique classique super connu. Ça vous est déjà arrivé ou pas, amis chroniqueurs et amis techniciens ?
Ouais, ça m'est déjà arrivé sur un morceau de Diamond Head, un morceau I Am Evil, qui est inspiré par le mouvement Mars.
De Gustav Holst dans les planètes. Hein.
C'est ça, voilà.
Mais j'ai écouté, je ne connais pas.
Et alors, moi, il m'est arrivé un truc un peu similaire, mais particulier, c'est-à-dire que je suis passionné de montagnes russes, ouais. Et j'écoute de temps en temps des musiques de montagnes russes. Et oui. J'avais écouté un moment une montagne russe qui s'appelle Valkyrie, qui est en Suède, justement.
Ah ouais, je crois que tu m'en avais parlé,
Et la montagne russe s'appelle Valkyrie, et la musique, c'était une reprise de La Marche des Valkyries.
De Richard Wagner.
Ouais, et je trouvais ça juste fou pour la thématisation, que ça soit allé jusque-là.
C'est ouf, ouais.
Ouais.
Et toi, Mathieu ?
Alors, moi, franchement, dit comme ça, alors je n'ai pas là en tête tout de suite des exemples, mais ça a certainement dû m'arriver que ça me tilte à l'oreille en disant ah, tiens, ça me dit vachement quelque chose, mais bon, il faudrait que j'arrive à piocher.
Et bien, justement, c'est ce qu'on va faire ce soir. Il va falloir utiliser votre esprit d'analyse ce soir. Donc, en fait, c'est ça. Vous avez bien compris, on va faire le même exercice que j'ai fait chez moi. Je vais vous présenter quelques pièces de musique classique qui sont assez connues. Plutôt connue pour deux, enfin très connue pour deux, une un peu moins connue, mais qui est vraiment intéressante. Et qu'en fait, ces trois pièces, elles ont inspiré la composition de musique actuelle. Donc je vais vous les passer, vous allez voir, essayer de trouver avec votre analyse si.
C'est parti.
Retrouver la musique. Alors, tiens, j'ai entendu ça quelque part. C'est donc le sous-titre de ma chronique.
Ah.
Alors on va commencer avec le concerto numéro 2 de piano de Rachmaninov. Alors si je vous dis Rachmaninov, ça vous parle un petit peu ou pas du tout ?
Pas vraiment. Moi.
Polyakov.
Alors oui, les Russes.
On va dire que la seule référence russe et encore peut-être que je dis n'importe quoi, mais Tchaïkovski. Mais Tchaïkovski.
Et oui, Tchaïkovski est bien russe.
Ok, j'ai eu un peu peur.
Mais... Et toi, Benji, t'as des petites.
Je sais qu'il est russe, qu'il fait du piano et qu'il a de super grandes mains, ce qui rend ses pièces.
Ouais, ça c'est.
Assez insupportable à jouer.
Mais très belles. Elles sont très belles, mais les pianistes sont souvent là en mode oh, c'est pas évident. Mais quand ils arrivent à les jouer, ils sont en mode waouh, c'est incroyable. Alors du coup, Sergei Vassilievitch Rachmaninov, si je le prononce correctement,
super,
parce que
mon
russe n'est pas encore très performant, c'est un compositeur et pianiste chef d'orchestre russe qui a été aussi nationné américain. Donc c'est un compositeur romantique, qui est notamment connu pour ses 7 concertos de piano, le numéro 2 et le numéro 3, dont le concerto numéro 2 va nous intéresser ce soir. Il a aussi écrit un poème symphonique qui s'appelle L'île des morts, une rhapsodie sur un thème de Paganini et... ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a laissé plusieurs instruments de ses propres œuvres, qu'on peut écouter encore actuellement.
D'accord.
Et donc, pour parler du concerto numéro 2, on peut dire qu'il a été créé le 11 septembre 1901 à Moscou par le compositeur lui-même au piano. Et il obtient un succès considérable dès sa première représentation. Et donc, la composition de ce concerto, en fait, elle intervient juste après les trois ans de dépression nerveuse dans laquelle... Ah, toujours la happy hour, je ne vous ai pas dit aussi. Toujours
ah,
la
oui,
joie.
La toujours.
Non, mais il faut savoir parler des choses un petit peu tristes pour savoir qu'après, il y a toujours le soleil derrière
après, les nuages. On arrive sur des choses quand même plutôt joyeuses. Sur
ben,
c'est le seul moment triste. Là.
Ça va bien se passer.
Voilà. Donc, la dépression nerveuse de 3 ans de Rachmaninov. Et en gros, ce serait son médecin qui lui aurait conseillé d'écrire ce concerto. Donc, il aurait dédié ce concerto à son médecin. Enfin, ça, je trouve ça ouf comme prescription bah, médicale.
Oui, franchement.
Ah, mais j'ai reconnu, c'est DJ Feuille, ça.
Eh oui, oui. Alors, toujours là, DJ Feuille, toujours ici. Donc, c'est un concerto qui respecte la forme traditionnelle du concerto. Il y a 3 mouvements. Donc, le premier, c'est Moderato. Le deuxième, c'est Adagio Sostenoso. Et le troisième, c'est Allegretto Scherzando.
Alors, j'ai fait LV14 italien. Est-ce que tu peux juste me dire, ça veut dire quoi, en fait, si tu arrives à... Si tu connais
Alors,
la définition.
Moderato, c'est tempo modéré. Adagio Sostenoso, c'est... Alors, celui-là, Adagio,
c'est bien long.
Oui, c'est ça.
C'est bien lent.
D'accord. Ok.
Donc, c'est pas trop rapide, pas trop lent. Mais c'est en dessous de modéré, en gros.
Ok.
Et on a Allegro Scherzando. C'est plutôt allègre avec. Comment je pourrais dire ça, Scherzando? C'est.
Rapide.
Oui, c'est plus, c'est une façon de jouer le Scherzando.
En fait, il y a le côté modéré au début, plus lent, plus rapide. Enfin, je veux dire, peut-être
oui,
ça joue comme ça.
En général, c'est souvent comme ça dans les concertos. Tu as soit une partie rapide, une partie lente et une partie rapide.
D'accord. Très bien.
En général, c'est souvent comme ça.
Ok.
Et donc, on parlait de la difficulté juste avant. Il est reconnu en fait pour une difficulté, notamment en fait par la taille des mains qu'on demande au pianiste, comme tu disais, Benji. Parce qu'en fait, il y a des dixièmes. Donc, en gros, les dixièmes, c'est un intervalle. Composé d'un écart de 10 notes. En gros, c'est comme si on allait de do à mi.
Ah oui, d'accord. Donc en fait.
Il faut des grandes mains.
Déjà, pour choper un octave pour les pianos, moi qui suis piano autodidacte, c'est une catastrophe. Mais alors, arriver à un dixième, oui. Bon.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Et donc, en gros, Rachmaninoff, il a écrit cette œuvre pour, d'une façon à surmonter définitivement la crise qu'il venait de traverser. Et ça la représente, en fait, ça représente énormément. On le reçoit énormément dans ce concerto. Et en fait, les émotions, elles sont à fleur de peau, elles nous donnent des frissons de tous les côtés. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir cette œuvre, un petit instant en pub.
Yes.
Donc, il y a l'orchestre Symphocampus dont je fais partie qui le joue en concert le mercredi 23 février à Evre.
Eh bien, faut noter ça.
Et on peut continuer la pub. Du coup, je peux faire un petit peu de pub parce que si on est un petit peu en manque de certains instruments. Donc, par exemple, en fait, si vous cherchez un orchestre et que vous faites par exemple du hautbois, du violon ou des cors, eh bien, le Symphocampus vous est ouvert. Vous pouvez nous contacter sur la page Insta ou la page Facebook de Symphocampus. Vous tapez juste Symphocampus et vous nous trouvez facilement. Et on répondra à ces messages avec joie.
J'espère que vous avez adoré cette pub pour laquelle vous n'avez pas pu skip ad, bien sûr.
Désolé.
Enfin, ça va, elle durait moins de 20 secondes, du coup, sur ça YouTube va. En général, on ne peut pas la skip.
Ah, c'est bon. Okay.
Du coup, bref de pub, je vous passe un extrait du mouvement 2 pour du concert Rachmaninoff qui m'a donné. C'est ce qui a donné la naissance à ce morceau de musique actuelle que vous allez devoir découvrir, qui est vraiment très, très, très connu. Alors, est-ce que du coup ça vous inspire? Vous avez des idées sur quel morceau en fait a fait naître ce magnifique concerto?
Alors moi j'ai quelques questions. Années 80?
Années 80?
La musique alors, est sortie en question.
Alors la musique elle est sortie en 75.
D'accord.
La musique de base, il y a une très grande personne connue qui l'a reprise en 95, je ne me trompe pas.
Oh là là, ça me dit rien du tout. Alexandre, est-ce que tu as une idée?
Alors, honnêtement, à un moment, j'ai cru entendre Joyeux anniversaire, donc je crois que je suis vraiment très, très, très paumé.
Ok, bon, en lui, ça se voit, c'est pas le PDG de Shazam, mais.
Bien vu, exactement.
Chaque quoi.
Non, pour l'instant, j'ai pas. Non, vraiment pas du tout.
Je vous propose, du coup, de passer un extrait de cette musique, et là, vous allez retrouver tout de suite, hein. C'est sûr. Living alone, I think of all the friends I've known. When I die, the telephone, nobody's home. Et oui, c'était bien notre Céline, la grande Céline.
Aïe, 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 mais comment on a pu passer à côté, c'est pas possible.
D'ailleurs, Benji, tu nous ferais pas un petit morceau, tu ne chanterais pas un peu All By Myself comme tu l'as chanté juste avant, c'était magnifique.
Non.
Oh là là, c'est dommage qu'il ait coupé l'antenne parce que franchement, il était incroyable.
Ah, franchement, nos auditeurs ont envie d'entendre ça.
Ouais.
Abonnez-vous en masse sur l'Instagram, demandez-lui, envoyez des messages.
Avec un peu de chance, on aura un petit réel qui va arriver.
Alors du coup, oui, c'était bien Céline. Et donc, pour commencer, à la base, c'était une chanson d'Éric Carmen. Donc, il l'a sortie en 1975, comme j'ai dit tout à l'heure.
Mm-hmm.
Et donc, c'est 20 ans plus tard, en fait, en 1995, que Céline sortira ce morceau. Donc en fait, lors de l'écriture du morceau, avec Carmen, en fait, il emprunte librement le thème musical du deuxième mouvement du concerto à Carmen 9, hein, que je vous ai du coup fait écouter. Et c'est une pièce en fait qu'Eric Carmen croyait à tort être dans le domaine public. Hein. Donc pour parler plus de domaine public, parce qu'en fait c'est assez complexe en fonction des pays où on est. Donc par exemple pour la France, il faut attendre 70 ans après la mort de l'artiste, hein, pour que ses œuvres passent dans le domaine public. Et voilà, ces morceaux dans le domaine public. Et pour ce qui est des États-Unis, en fait, tout ce qui a été publié avant le 1er janvier 1923, c'est dans le domaine public. Et on peut noter qu'en fait, que depuis, ça fait que depuis 2019 que tu as des œuvres qui rentrent à nouveau dans le domaine public. Parce qu'en fait, il y a eu une loi en fait, qui a été créée en 1988, qui a rajouté comme ça 20 ans en plus de droits de droit pour
cadeau,
les compositeurs.
On vous l'offre.
Voilà, donc sans trop de raison, mais voilà. Donc du coup, il y a eu 20 ans, il n'y a eu pas de sortie. Et à partir de 2019, le monde de la musique classique était content, parce qu'il y a plein de compositeurs qui sont sortis d'un seul coup, en fait. Et voilà, donc du coup... je me suis perdu dans mes notes.
Non, ça peut arriver, ça peut arriver.
Alors du coup, pour en gros, Eric Carmen, il l'a composé, il croyait que c'était dans le domaine public, et en gros, quand il a composé ce morceau-là, en fait, quand il a composé All By Myself, il pensait que c'était
okay, domaine actuel,
sauf qu'il l'a écrit, en fait, il l'a composé en 1900 à le concerto. Et les œuvres, en fait, qui étaient dans le domaine public, c'était les œuvres qui étaient de 1897.
Ah, oh, peu de choses près.
À 4 ans près,
c'est
bête.
Aïe, 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 aïe,
c'est bête.
Oh là là.
Carton jaune pour le joueur français.
Aïe, aïe, aïe. Alors, du coup, pour continuer, on pourrait passer peut-être à la prochaine œuvre.
Avec plaisir.
Du coup, on va parler de Prokofiev. Est-ce que vous connaissez un petit peu Prokofiev ?
Sergueï de son prénom, c'est bien
c'est
ça ?
C'est ça, Sergueï.
Ah, okay.
C'est encore un russe, ça ?
Oui, c'est aussi un russe, du coup.
Prokofiev, il me dit quelque chose. Il a fait des musiques assez connues.
Est-ce que, quand vous étiez enfant, vous avez écouté un fameux, en fait, un morceau, je sais pas trop comment tu pourrais le décrire, mais c'est un morceau, en fait, qui parle d'un garçon qui s'appelle Pierre. Et qui se fait attaquer par un loup.
Ah, Pierre
oui,
et le loup.
Oui.
Et
oui.
Oui.
Ah,
c'est oui, tout est dans le titre en fait, effectivement.
Oui, bah, oui.
Et donc du coup, le concept de cette œuvre, c'était voilà, il a écrit en chaque en fait personnage et qu'on est un instrument en fait.
Ah oui, si, ça me dit voilà. Quelque chose.
Parce qu'en fait, il a écrit ça, c'est une pièce en fait qu'il a écrit pour faire un peu découvrir les instruments aux enfants.
D'accord.
Et mais après, bon, franchement, vu la façon dont il a écrit cette pièce, je trouve que c'est magnifique et c'est une bonne façon de faire découvrir ça aux enfants.
Ouais, bah.
Et ensuite de faire découvrir aux enfants qui peuvent être mangés, bien sûr.
Ah, bon appétit.
Bon appétit, toujours. Évidemment.
Alors du coup, pour vous donner un peu plus d'infos sur Sergueï Prokofiev, hein, c'est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe. Il est né le 11 avril 1891 et il est mort le 5 mars 1953 à Moscou. Il est l'auteur de nombreuses œuvres musicales, donc allant de la symphonie au concerto, de la musique de film, des opéras ou des ballets. Et il a été reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif. Donc de 1818 à 1936, il passera de nombreuses années en fait en dehors de son pays avant de se laisser convaincre de revenir en URSS, où en fait il fut honoré et persécuté en revenant. Et petit fait intéressant, il est mort le même jour que Joseph Staline. Voilà.
D'accord. Okay. Bah écoute.
Pour pouvoir sortir ça dans vos discussions de société.
Ce mec était plutôt patriote quand même.
Ah bah ouais. Franchement, mort à Moscou le même jour que Staline, franchement
c'est patriote.
Ah
c'est
il pouvait pas faire plus communiste, je pense.
Même s'il n'était pas trop, il n'aimait pas trop quand même.
Non,
il avait un peu bah, du mal. Ouais.
C'est des fois des coïncidences.
Et du coup, l'œuvre de Prokofiev dont je vous parlais, c'est le lieutenant Kij. Alors, Kij, pas Kish, hein. Pas okay. Comme notre ami Lionel me disait hier soir.
On ne fera pas de.
Ouais.
Alors, du coup, le lieutenant Kij, ça vous connaissez l'histoire ou pas?
Alors, pas du tout.
Franchement, je n'ai pas trouvé grand-chose sur Internet, mais ça parle d'un lieutenant qui s'appelle Kij.
D'accord. Voilà. Eh ben, alors, déjà, au moins, les informations essentielles.
C'est clair. Mais voilà, donc en gros, c'est pour en dire un peu plus d'infos quand même, j'ai quelques infos sans vous
spoiler. Allez, on t'écoute.
Alors en gros, c'est une suite orchestrale qui a été composée par Sergueï Prokofiev en 1933. C'est donc en gros, c'est tiré de la musique d'un film qu'il a écrit pour un film qui s'appelle Lieutenant Kij.
D'accord.
Et c'est un film d'Alexandre Feinzimmer. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est un bon prononciation.
J'ai cru que tu allais parler de mes fameux films. Mais non, je suis déçu.
Et c'est du coup basé sur une nouvelle éponyme de Yuri. Tianov, ouais, toujours plus russe, c'est toujours un peu.
Ouais, non, mais des fois c'est.
Et en gros, c'est une suite orchestrale en 5 mouvements. Donc, le premier mouvement, c'est la naissance de Kij. Le deuxième, c'est la romance. Le troisième, c'est le mariage. Le quatrième, c'est la troïka. Et le dernier, c'est l'enterrement de Kij. Et donc, le mouvement qui nous intéresse dans ma chronique, c'est le mouvement nommé romance. Donc, en gros, la mélodie de romance est empruntée à une chanson populaire russe qui s'appelle Le pigeon gris roucoule. Pas mal. Hein.
Ah, c'est un beau titre, effectivement.
Ah, mais c'est conceptuel. Hein.
Ah, j'aime bien. Alors, bah, je vous laisse écouter la romance. Alors, un conseil pour trouver le morceau actuel, je vous conseille de vous focaliser sur la contrebasse qui fait le thème.
Très bien, allez.
D'accord, c'est parti.
Bah, allons-y.
Tous sur la contrebasse.
Alors, est-ce que le pigeon gris qui roucoule vous inspire ?
Personnellement, j'ai pas entendu de pigeon qui roucoule, mais bon, ça c'est...
Moi non plus. Mais moi, j'ai entendu de musique de jeux vidéo ou de films, déjà.
Alors...
Mais je sais pas, pour moi, c'est The Witcher.
Alors, j'aurais pu prendre des musiques de jeux vidéo, mais là, je suis vraiment resté dans les, les musiques pop, rock actuelles, du coup.
D'accord. C'est vrai que la contrebasse me dit vachement quelque chose. Et du coup, est-ce que là, on est sur quelque chose de récent, on est quelque chose de plus ancien ?
C'est sorti, alors attends que je trouve, en 85. Hein.
Ah oui, donc ça peut...
Et
ça...
c'est du rock, pour donner des informations.
Du rock. Alors, rock des années 80. Qu'est-ce que l'on peut avoir ?
On peut avoir du... Non, Beatles, c'est trop vieux. C'est déjà trop vieux.
Mm.
Rolling Stones, c'est déjà trop vieux aussi. Les années 80, il y avait quoi ? Il y avait Metallica.
Ouais.
Alors, je peux te donner une autre information. Le mec qui s'est cassé des trucs-là, il est aussi connu pour avoir un groupe très connu.
Alors...
Mais il a une carrière solo aussi avant.
Alors, Queen. Il a d'abord une carrière solo et après il était
attends,
dans
il y a eu Queen, enfin, Queen
ou en parallèle, je me souviens plus exactement. Genre.
Quick.
Alors, allez, Alexandra Quick. Fin, évidemment. Mais non, oui, il y a eu Queen, mais non, mais du coup. Ah non, là vraiment, j'ai rien. Alors là vraiment. Alors,
un peu de dernier indice pour vraiment vous aider. Son groupe, il a chanté Roxanne.
Ok, donc. C'est
Sting.
C'est
Police,
oui, c'est Sting.
Ok,
c'est
Sting. Et alors, Sting, du coup, il a fait une musique avant The Police. Et la contrebasse ressemble vachement
à une de ces musiques du coup. Bah, je vous propose peut-être d'écouter, ça vous parle un peu mieux du coup. Subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's? Ah oui, Sting. Mais oui. Eh oui, c'est Sting. C'était une chanson de Sting qui s'appelle Russians. Donc c'est issu de son premier album solo. Donc tu vois, avec ce dernier truc.
Honnêtement, quand on a entendu le Stings là. On s'est regardé dans les yeux avec Mathieu, on s'est dit,
Mais oui.
Pourquoi ?
Je vais me faire taper sur les doigts par mes parents quand je vais rentrer en Bretagne, parce que là, ils doivent avoir tous les titres. Et là, moi, je suis là. Non, pas Queen. Quand même, non. Michael Jackson, non.
Est-ce qu'ils auront le dernier ? Parce que le dernier
Alors,
c'est un peu plus récent, le dernier.
On verra.
Alors, du coup, bon, restons celui-là pour l'instant. Donc, c'est Russian Dusting. C'est une chanson issue de son premier album solo. The Zoom of the Blue Turtles, c'est wow, l'anglais magnifique,
sorti en
1985. Donc, elle a été aussi prise en single, cette chanson.
D'accord.
Donc, il l'a sorti dans le contexte de la guerre froide. Donc, en fait, Sting, il dénonce les dangers de la doctrine et de la destruction réciproque assurée, ou équilibre de la terreur entre les États-Unis, l'URSS et leurs alliés. Donc, en fait, la chanson s'est devenue un hit en France où elle est. Resté du coup à la deuxième place des ventes en fait pendant 3 semaines et dans le top 50 pendant 19 semaines. Et on peut aussi dire une petite stat comme ça, c'est le 636e single le plus vendu en France.
Ah.
Alors, comme tu dis tout à l'heure, Russian en fait, ça dénonce les répercussions de la guerre froide. Donc, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, c'est de 1947 à 1991.
Oui.
Au moment. donc, la doctrine de la destruction réciproque, voilà. Et donc, par exemple, donc il dénonce du coup la guerre froide en disant que, par exemple, il dit « There's no such a thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. Il n'existe plus de guerre que l'on peut gagner. C'est un mensonge auquel on n'y croit plus. Et il met deux à deux les représentants des deux superpuissances. Il parle de Khrushchev. Il dit « Mr. Khrushchev said, we will bury you. I don't subscribe to this point of view. » Donc, Monsieur Khrushchev a dit « Nous vous enterrerons, je ne partage pas ce point de vue. » Mais il parle aussi de Reagan. Il nous dit « Mr. Reagan say, we'll protect you. I don't subscribe to this point of view. » Oh, magnifique anglais toujours.
Ah, mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne. Hein.
Et donc, Monsieur Reagan nous dit « Nous vous protégeons, je ne partage pas ce point de vue. » Et donc... En fait, les paroles, en fait, elles reflètent plutôt une version occidentale de la guerre froide, mais elles sont porteuses d'un discours humaniste. Ainsi, Singh en fait, espère que les Russes aiment aussi leurs enfants. « I hope the Russians love their children too. » Et c'est selon lui la seule chose, en fait, la chose qui pourrait en fait, soulever cette, mettre la fin en fait, à cette guerre et ne empêcher la guerre nucléaire. « What might save us, me and you, du coup ?» Et cette dernière, en fait, la guerre nucléaire, elle est évoquée par le jouet mortel d'Oppenheimer.
Oppenheimer, ouais.
Exactement. parce qu'il y a de l'allemand, il y a trop de langues, du coup, je sais
pas. Ouais, non, mais après, voilà.
C'est compliqué, les chroniques avec toi.
Ça fait partie aussi voilà, de savoir parler plusieurs langues.
C'est bien, il y a un petit aspect culturel à tes chroniques. Et à chaque fois, on apprend plaisir. Des langues, c'est cool.
Et donc, du coup, il nous dit Oppenheimer, Deadly Toy. Donc, en fait, c'est le physicien Robert Oppenheimer qui était considéré comme le père de la bombe atomique.
Oui, tout à fait.
Et donc, du coup, après toutes ces informations sur Sting, est-ce qu'on passerait pas au troisième
avec
morceau?
Avec grand plaisir.
Alors, en fait, je dis troisième morceau, mais c'est pas vraiment un troisième morceau, en fait. C'est plutôt un ensemble de morceaux.
D'accord.
Si je vous dis Folia, est-ce que ça vous parle?
Ah, oula.
Folia.
La Folia, Folia, ou Folie d'Espagne.
Ah oui, ça oui, parce qu'il y avait les pubs de ça à l'UGC.
Mm-hmm. Oh. C'est vrai?
Oui, oui. Quand on regardait des films à l'UGC, à un moment, en tout cas, moi j'habitais à côté de Paris. À côté de Paris, il y avait. Il y avait une pub à chaque fois sur la Folie d'Espagne et qu'ils allaient passer ça en fin d'année au cinéma.
Ah ben écoutez, moi j'ai vraiment très peu entendu parler de ça, mais du coup effectivement...
Je vous en parle un tout petit peu avant que vous commencez à chercher.
Avec plaisir.
Alors la Folia ou Folie d'Espagne, c'est une danse apparue au 15e siècle, probablement au Portugal, en fait, dont le thème a servi pour des variations de plus, écoutez bien, 150 compositeurs. C'est
ça
énorme.
Beaucoup,
ah oui d'accord.
Et ouais, hein. Donc par exemple, on peut retrouver dans ces 150 compositeurs, Lully, Arquin... Ah. L'italien, c'est pas.
Attends, si tu veux, je le lis à ta place.
Arcangelo Corelli, Martin Marais, et aussi en passant par Antonio Vivaldi ou Sergei Rachmaninov, dont on parlait tout à l'heure.
D'accord.
Donc en fait, le principe est simple. Tous ces morceaux, en fait, qui utilisent le thème de la Folia, reposent sur une succession d'accords communs. Donc alors, par exemple, si on est en ré mineur, on aura ré mineur, la septième, ré mineur, do, fa, do, ré mineur, la septième.
À tes souhaits.
Ré mineur, la septième, ré mineur, do, fa, do, mi, ré mineur, la septième, ré mineur.
À tes amours.
Dans tous les morceaux. Yes. Merci. Dans tous les morceaux de type Folia, du coup, on aura cette suite d'accords assez connue. Et bah voilà, si vous ne connaissez pas cette célèbre Folia, ou même si vous la connaissez, d'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait de la Folia de Vivaldi pour que vous essayiez de trouver le titre actuel dont il y a quelque chose qui est né de ça.
Très bien.
Concentrez-vous peut-être sur les accords. Peut-être.
Allez, on va essayer de faire un effort cette fois-ci.
On va être bon cette fois-ci, je vous jure.
Alors cette Folia, ça vous inspire? Vous avez l'idée sur quel morceau venait de cette Folia?
Ah, chaque fois je suis là, et en plus vous me regardez, je suis là, je me dis putain, ça me dit vraiment quelque chose. Et là j'ai... C'est... Donc là on est d'accord sur quelque chose de récent quoi.
Oui, c'est... Alors je sais
pas... Année 2010...
Ouais, peut-être pas 2010, plus 2000...
Plus 2000.
2001, 2002, je vais voir.
Ah. Alors, est-ce que c'est annonciateur d'un genre musical? Est-ce que ça dérive en fait de... Parce qu'en fait le rythme fait vraiment penser à quelque chose d'entraînant, enfin... Bon, je pense pas forcément à la tectonique, mais il y a les débuts d'électro aussi qui commencent...
Ah, ça aurait été super sur la tectonique, mais c'est pas...
Ça aurait été incroyable,
en vrai,
mais...
c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Franchement, vous attendez pas à ce qui a découlé de ça.
C'est pas Yel.
Alors bon, on va tenter. On va tenter le dubstep, mais non, même peut-être pas non plus.
C'est la pop américaine.
La pop américaine. Ok.
Pop américaine. Parce que pour moi, depuis le début, c'était les fourmis chimères de Hunter x Hunter là.
J'aurais pu faire les animés, mais là, c'est vraiment, je dis rock.
Là, vraiment, mais c'est pour ça. Du coup, j'hésite à le dire, mais pour moi, c'était vraiment fourmis chimères. Et ça m'étonnerait pas que fourmis chimères, la musique des fourmis chimères, ça soit possible.
D'accord. Et ben alors là, pour l'instant,
non, pas trop d'idées du coup.
Rien qui me sort en tête, mais quelque chose de récent. Non, ça me dit rien.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette chanteuse, c'est une chanteuse, voilà, elle est américaine. On l'a connu dans le Club Dorothée, mais le Club Dorothée américain, donc en gros, n'importe quoi. Comment s'appelle ça,
MTV?
MTV.
Non, pas MTV, Disney Channel avec Justin
Timberlake. Ah, c'est l'Odéon,
c'est genre un Miley Cyrus ou quelque chose comme ça.
C'est quelque chose dans le genre, je me souviens plus.
Alors,
tête,
alors donc attends. On a Selena Gomez, on a
Beyoncé, non?
Ah, Beyoncé, je suis pas sûr qu'elle est passée dans les trucs.
Elle a fait une apparition dans les films des Schtroumpfs en 3D.
Quoi?
Quoi?
C'est vraiment la ref de la ref, voilà. Ou alors on elle a, ouais, oh, c'est trop d'indispense. En vrai, autant passer le mouvement et le morceau et vous allez voir, on en parlera après, genre.
Oh. Dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Ah, bon, oh là là, bah oui, bah oui.
Oui, et coup, oui, c'était notre Britney, cette chanteuse à la voix suave et qui maîtrise le vocal fry à la perfection.
Bien sûr.
Oh yeah.
Oh là là. Genre. Attends, il y a Britney dans le studio ou quoi là?
Ah là là.
Ah ouais, ah bah ouais, donc pas évident au début, mais effectivement, maintenant que tu le dis, on le voit tout de suite.
Ouais. Bah, ça m'a fait rire en tout cas. Tous les gens qui n'étaient pas dans cette émission de radio, je leur ai envoyé l'extrait où je chantais du coup sur la foulée du LD du Britney. Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie?
Non, non, mais c'est pour le travail.
C'est exactement
pour le travail. Je chantais pour le travail.
Mais voilà, donc en gros, c'est Oops, I Did It Again, donc de Britney Spears. Ça a été composé par Max Martin, donc dans le second album de Britney Spears qui porte le nom de cette chanson. Et d'ailleurs, en parlant de Max Martin, ce mec, il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de super titres connus, genre I Kiss the Girl de Katy Perry, c'est lui, Stupid Love de Lady Gaga, c'est lui, et bien encore Shake It Up de Taylor Swift, pendant ce titre que 3.
Eh ben alors, on a un sacré, on est un sacré personnage.
Sacré Max Martin.
Eh bien sûr,
il était là, Martin. Il a été efficace, pas mal.
Il a fait des beaux titres, tout à fait.
Si vous checkez sur sa page Wikipédia, il y a une liste d'une soixantaine de chansons, et sur les 60, il y en a 50 qui sont connues en France.
Ah bah ça.
Et les autres, elles sont connues aux États-Unis, mais franchement, c'est ouf, en vrai.
Eh ben ouais.
Bah, je crois qu'on arrive à la fin de ma chronique.
Eh ben écoute, franchement, Andreas, merci beaucoup, parce qu'au moins, on a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Moi, qui n'étais pas très branché opéra, parce que j'ai pas l'occasion d'en parler ou d'en écouter, et de savoir que on peut avoir des corrélations entre nos musiques actuelles et les musiques d'antan, enfin d'antan, encore ça va, c'était il y a le siècle dernier, le siècle d'avant, mais non, en tout cas, franchement, moi j'ai bien aimé, c'était cool.
Bon, moi évidemment, j'ai rien appris.
Aïe, aïe, aïe.
Faut t'écouter un peu plus, Alexandre, écoute-nous.
Oui.
Puis tu pourras apprendre en réécoutant la chronique quand on...
Bien sûr, évidemment.
Quand, à chaque fois. Du coup, on arrive à la fin de cette chronique. Et oui, ce soir, sur une chronique qui parle de la musique classique, j'ai réussi à vous mettre du Céline et du Britney.
Ça, c'est quand même très fort.
Et ça, c'est fort de ta part.
Et rassurez-vous, ouais. J'aurais pu vous mettre du Alliage. Mais j'avais pas le temps.
Oh non.
En vrai, je suis content de moi. Hein. Du coup, ouais, voilà.
Ouais, non, tu peux l'être. Franchement, il y a des bonnes références que tu as placées. Et puis, non, c'est bien. Ça plaît. Franchement, moi, ça
c'était sympa. C'était fort sympathique comme chronique.
Donc, du coup, j'avais demandé si vous avez pas trop galéré, mais visiblement, c'était un peu compliqué.
J'ai vraiment galéré, mais c'est pas grave.
Il y avait des idées d'un côté de la table, un peu moins de l'autre côté.
Je vois pas de quoi tu parles.
Ce sont des choses qui arrivent, hein, non, mais alors.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au niveau des musiques
Britney.
Alors, Britney, moi, c'est surtout que moi, j'étais là, je me suis dit, quand même, chanteuse récente, moderne, ça m'a eu, mais c'est vraiment Sting aussi, parce que j'ai vraiment juste failli la voir. Avec, comme tu disais, la contrebasse là, qui donnait quelque chose. Et, mais non, autrement, moi, ça reste un peu Sting, mais c'est vrai que Britney, c'est le climax. Quoi.
Sting, ça ne m'étonne pas spécialement, parce que le rock, régulièrement, est très, très inspiré musique classique. Il y a beaucoup de choses.
En fait, j'avais plein d'exemples. Il y a plein de morceaux de Beatles. Il y a un de leurs morceaux qui est inspiré de la sonate au clair de lune de Beethoven. J'avais trouvé plein de trucs.
Moi, j'ai un gros exemple, c'est... j'ai pas de titre dont ça s'est inspiré, mais je sais que ça a inspiré énormément, c'est les 4 saisons de Vivaldi qui ont inspiré énormément, surtout le printemps, qui a beaucoup, beaucoup inspiré les compositeurs de métal et qui est très utilisé métal.
J'en avais parlé dans une chronique un petit peu il y a longtemps, parce que j'avais parlé de Vivaldi. Parce qu'en fait, les 4 saisons, un petit rappel, avant ton coup de la chronique, c'est une des pièces en fait qui est le plus jouée au monde et c'est une pièce qui possède le plus d'arrangements, plus de versions différentes en fait, hein, dont des versions métal, des gens qui sont inspirés de ça.
D'accord.
Ah, ok. Oula.
C'est très facile de faire une version métal à la guitare de Bach, Vivaldi et compagnie.
Ah, ça marche bien. Hein. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai fait pas mal de choses aussi sur les différents morceaux classiques que je vous ai présentés. Puis je me suis bien amusé à rédiger cette chronique. En tout cas, ça m'aurait vraiment fait rire que l'hymne du mouvement Free Britney soit sur la folia. Genre un truc comme ça, genre Free, Free. Britney, Free, Free, Britney.
À l'aide de quel timbre de voix, franchement, c'est magnifique.
Britney, Free, Free, Britney. Enfin, bon, je crois que je m'égare un petit peu là. Mais
non, mais c'est bien, franchement, il y a la place pour ça.
Bon, sur ce, je laisse la parole à notre ou nos animateurs. Ce soir, c'est un petit peu.
Ouais, on est animateurs en duo là.
On teste des choses. Hein. Merci de nous avoir écouté, c'était Andreas. Hein.
Et merci beaucoup, Andreas, pour ça, parce que c'était superbe. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à ma chronique. J'ai le sentiment. Et puis c'est parti. Donc, alors, il n'y a pas de jingle.
Alors, moi, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on fasse un jingle tous ensemble.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas, oui. Bah, historique.
Historiquement.
Historique. Non.
Merci voilà, à tous, vraiment.
Incroyable.
Alors, la dernière fois, je suis venu vous parler de Tame Impala, un exemple concret de ma passion, quand même, pour la musique. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler d'une autre de mes passions. Donc, c'est l'histoire. Oui, parce qu'au-delà de mes études se cache une grande amitié pour les récits ayant érigé le monde d'aujourd'hui. Donc c'est décidé, quelquefois dans la Happy Hour, je vais venir vous raconter l'histoire avec un grand H. Donc voici le premier opus, et probablement pas le dernier, d'Historiquement. Moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement sympa, parce qu'avec la ville du Mans, tu prends n'importe quel adverbe, tu peux en faire un jeu de mots avec la ville. Franchement, on a choisi le bon endroit quand même.
Franchement, ouais, ça c'est cool. Hein.
Ça aurait été plus compliqué si j'en habitais à Strasbourg.
Ouais, Strasbourg, même Paris, hein. Tu sais, t'essayes de faire un truc, ah non, c'est...
Bah, à Paris, tout a été fait, il y a trop de campagne. Tout
oui, ouais, en plus. Donc,
en vrai, quand tu vas à la radio, quand tu fais ton émission, tu l'appelles l'apparition.
Ah oui, ah, oh, ouais. Bien ah, joué pas mal, pas mal. Ah là là, mais effectivement. Donc voilà, donc avant toute chose, moi ce soir, pour ce premier épisode, je me suis intéressé à ce qui m'a entouré. À l'instant même où on parle ensemble, donc c'est le Vieux Mans. Donc avant toute chose, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'autre nom du Vieux Mans?
La cité Plantagenêt.
Bravo Andréa, c'est un point pour toi. C'est la cité Plantagenêt, bien sûr. Elle est dénommée ainsi depuis 2003 environ. Et celles et ceux qui y prennent le tram vont maintenant en tête la voix de la personne qui annonce l'arrêt éperon.
Cité Plantagenêt.
Voilà, donc je me permets quand même d'adresser mes excuses. Et cette idée va regorger de nombreuses références historiques, à commencer par l'une des fortifications les mieux conservées de tout l'Empire romain, côtoyant celle de Rome et de Byzance. Et oui, monsieur, la forteresse romaine protégeant le Vieux Mans, elle est en place depuis, alors environ, après combien de temps selon vous?
Alors, la Gaule a été envahie en -50 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Je dirais que quand même, ils se sont mis là, ils n'ont pas trop chômé les Romains.
Oui, tout à fait.
Donc ils sont arrivés, ils ont build. Et
est-ce que tu
allez,
peux
l'an zéro à peu près.
L'an zéro. Alors en fait, elle est là depuis à peu près une quinzaine de siècles. Parce qu'en fait, on estime la construction de la muraille aux environs de la fin du 3e siècle.
Ah ouais.
Voilà, d'accord. Donc effectivement, okay. Alors c'est une sacrée muraille. Et elle a servi en grande partie à affirmer de nouveau la puissance impériale. Donc ça fait un petit peu écho à ce que tu disais, le fait d'envahir la Gaule et du coup de montrer que l'Empire romain, elle est toujours là. Il est toujours là, pardon. Bon, après, bon, l'Empire romain s'est quand même effondré à peu près 200 ans plus tard, hein, donc ça n'a pas servi à grand-chose.
C'est dommage.
Mais on a aujourd'hui quand même les vestiges de cette civilisation détruite sous nos yeux, et ça, c'est quand même franchement intéressant.
Ouais, puis surtout que c'est super beau en plus.
Hein, oui, exactement. Voilà, c'est une pièce de l'histoire qui fait à peu près 450 mètres de long et 200 mètres de large. Bon, alors, j'ai pas mesuré précisément, évidemment, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, c'est des infos que j'ai piochées hein, sur le site officiel du Mans et puis de l'Office du Tourisme. Et elle va tirer ses pierres des carrières non loin d'ici, et dont les motifs géométriques ornementaux, donc on voit souvent là des petits motifs que l'on voit sur les murs, et ben ça constitue une grande partie du patrimoine de Manso. Et donc la cité garde en son sein de l'architecture qui a traversé les siècles. Mais avant de plonger dans cette partie on ne peut plus sympathique de ce Vieux Mans, et ben on va s'écouter un petit peu de musique. Et ce soir, comme je suis de bonne humeur, ben j'ai envie de vous faire passer Crystal Waters avec leur titre Gypsy Woman. C'est parti.
C'est cool ça.
To do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la la dee la doo da, la la dee.
21h45 à l'horloge du studio. Nous êtes sur l'Happy Hour, 21h-22h sur Radio Alpa, la meilleure amie radio du monde.
Évidemment.
Et là, on est de retour dans Historiquement. Et c'est le moment, Stéphane Plaza, de cette chronique. Bienvenue à tous dans Recherche ancienne appartement ou maison médiévale.
J'adore.
Alors, ouais, alors j'ai pas fait, j'ai pas réussi à trouver un jingle. Et comment parler du vieux Mans sans parler de ces très belles maisons, stars des 15e et 16e siècles, que l'on retrouve dans bon nombre de villes et me viennent en tête notamment Rennes ou Lannion. Est-ce que vous savez, chers amis, comment on appelle ce type de maison ?
Des maisons à colombage, je
pense. J'allais dire exactement la même
Effectivement,
chose.
Effectivement, c'est un des synonymes, mais l'autre dénommé que j'ai, ce sont des maisons à pans de bois. Donc c'est une dénomination simple pour le plaisir de nos yeux, même si parfois sur certaines maisons, j'ai vraiment l'impression, vu l'inclinaison des pans, là, qu'elle va s'effondrer sur moi. Donc je fais quand même attention quand je regarde. Mais voilà, c'est d'ailleurs parmi l'une d'entre elles que se trouve la maison du Pilier Rouge, donc, qui est en soi une réunion des trois maisons. Elle est l'une des plus connues de ce vieux Mans et elle va se trouver non loin de la place Saint-Pierre donc, et de l'hôtel de ville. Donc si vous baladez dans le coin, n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est très jolie. Pour terminer notre voyage dans la cité, on va prendre de la hauteur et on va contempler la cathédrale du Mans. Et quelqu'un peut me rappeler le nom de cette cathédrale ?
La cathédrale Saint-Julien.
Bravo.
Et pas Sainte-Juliette, comme je croyais.
Et non,
c'est Sainte-Juliette.
C'est la cathédrale Saint-Julien du Mans, donc elle est dédiée à Julien du Mans, sans blague, annoncé comme le premier Saint-Julien de l'histoire et le premier évêque du Mans. Donc rien que ça, quand même, pas n'importe qui. Son tombeau y est d'ailleurs dans la cathédrale et une fresque splendide sur le flanc occidental le représente avec 16 faits marquants de sa vie. Alors, à votre avis, elle date de quand, cette cathédrale ?
Alors, c'est une cathédrale gothique, je pense.
Oui.
Alors, gothique, je sais d'où. J'ai pas mal d'histoires sur Saint-Julien derrière. Je vais en raconter une. Mais il me semble que c'est 11e siècle, mais je suis pas
c'est
tout à fait sûr.
C'est plus tard, je crois, parce que les cathédrales romanes, elles finissent à peu près au 12e siècle. C'est à partir du 13e, 14e siècle, non ?
Eh bien, en fait, la meilleure réponse, c'est vos deux réponses en même temps, puisqu'en fait, elle l'est. À cheval entre 4 siècles et 2 styles architecturaux différents.
Ah ouais.
Parce que selon Wikipédia et le site officiel du Mans, sa construction a commencé aux alentours de 1060 et s'est achevée aux alentours de 1430. Alors cette cathédrale, c'est un endroit parfait pour les historiens parce qu'il regorge de pièces et objets ayant traversé les époques. Donc du coup, pour revenir à l'architecture de la cathédrale, la nef qui est la partie principale, elle est de style roman. Donc des styles romans en général, c'est que le plafond, donc du coup, c'est une véritable arche, en fait, quelque chose de très joli. Et c'est également le type d'architecture de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de mon petit village de cœur qui est Plouguerneau. Donc voilà, je vous offre cette anecdote. Mmh. Voilà. Et pour revenir à notre cathédrale, donc le chevet, donc qui est l'extrémité lorsqu'on la regarde dans sa longueur. Donc effectivement, comme tu dis, Andreas, elle va caractériser l'art gothique avec des arcs-boutants. Donc des arcs-boutants, c'est une sorte de Y, des trucs qu'on
les
voit. Voilà, des arcs-bouts. Typique, par exemple, de notre superbe cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Ouais.
Et oui, il y a beaucoup d'autres références historiques. Pour cela, je vous invite à consulter donc, le site officiel du Mans ou l'Office du Tourisme si vous voulez découvrir un peu plus cette cathédrale. Donc, je tease un petit peu. Effectivement, il faut savoir qu'à côté de la cathédrale se trouve un menhir.
Oui, avec un trou, un droit. Bon,
voilà.
Il y a un grand menhir et un tout petit trou au milieu.
Voilà, et donc un menhir à côté d'une cathédrale du Moyen-Âge, c'est quand même une.
Alors, si je ne me trompe pas, c'est le menhir de la bénédiction. Et avant, les gens pensaient que la toucher était apporter la chance, il me semble.
Et ben voilà, donc c'est plein de petites anecdotes. Et franchement, c'est.
Merci Didier Chandoudoui.
Et voilà. Donc voilà, ainsi s'achève ce premier opus d'Historiquement. Alors, j'ai pioché mes recherches, comme j'avais dit, sur le site officiel du Mans, sur l'Office du Tourisme, quelques brefs de mon ami toujours qui est Wikipédia. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et je pense que l'heure est venue maintenant de passer le relais à Alexandre.
Eh ben ouais, c'est l'heure de passer le relais. Et dites-moi, avant de commencer ma chronique, est-ce que vous appréciez les mèmes sur Internet ?
Bien sûr, j'adore ça.
Moi, j'adore. On passe 3 heures par jour minimum dessus.
Eh ben, c'est nickel, parce qu'aujourd'hui, dans ta camaté, je vais vous parler de comment un vieux porno gay est devenu un rassemblement annuel rassemblant des artistes du monde entier.
Non. C'est incroyable.
C'est ouf.
Ta camaté.
Alors, mon histoire commence le 14 juillet 1969 à North Babylon, dans l'état de New York. Alors que la soirée semblait calme, l'hôpital de la ville s'enlumina d'une lumière radieuse, car l'élu, l'homme parmi les hommes, le grand frère, Billy Harrington, naquit.
D'accord.
Durant son enfance, le jeune homme se passionna bien vite pour le culturisme et fit même quelques photos pour le magazine Playgirl. Cependant, sa carrière décolla lorsque Jim French, le producteur de Colt Studio Group, le repéra et décida de l'engager au sein de son studio de porno gay.
Yes.
J'adore.
La Fiower, bien sûr. Il lui a fallu bien sûr très peu de temps avant que Billy, Monsieur Harrington, accepte de tourner quelques films.
D'accord.
C'est ici qu'il découvrit ses compagnons, le ténébreux Van Dark Holm et le sympathique Danny Lee. Que cependant, les films connurent un destin tragique et tombèrent très vite dans l'oubli.
Oui, on se demande pourquoi ce ne sont pas des blockbusters. Hein.
C'est vrai que c'est bizarre. Mais,
ah, attention.
Mais,
alors,
car
peut-être.
Au final, Internet, c'est Internet.
Oui.
Les vidéos sortirent des limbes en 2007 grâce au site Nico Nico Vidéo.
Alors, ça ne me dit rien du tout, mais alors.
Alors, Nico Nico Vidéo, c'est un peu l'équivalent japonais de YouTube.
Ok, ouf, j'ai eu peur.
Mais c'est sympa. Tout d'abord, ces mêmes-là sont apparus sous forme de bait and switch. Alors, vous savez très bien ce que c'est que le bait and switch.
Oui, justement.
C'est-à-dire des vidéos dans le but de troller, en faisant croire au visionneur qu'on va lui montrer quelque chose qu'il désire.
Ah.
Et souvent en reprenant le titre, en reprenant aussi le début de la vidéo, et puis en coupant d'un coup la vidéo pour passer à quelque chose que la personne ne veut pas voir. Exemple très connu de ça, c'est le fameux Rickroll avec Never Gonna Give You Up de Rick Ashley.
Ok, celui-là, effectivement, il hante Internet depuis quelques
de
bonnes
temps.
Années, ouais, effectivement.
Ou notre
2007,
très bon ami Ricardo.
Ouais,
ça fait
quoi
beaucoup.
Notre très bon ami Ricardo.
Ah, je vais y venir. Ricardo Milos, justement, je vais y venir à Ricardo Milos.
C'est incroyable.
Aïe, aïe, aïe.
Mais très vite, les films des films de Billy se propagent surtout sur la forme d'automade. Alors automade, je pense que personne ici a entendu parler de ce terme.
Alors moi déjà, franchement, quand tu me parles de même, moi je parle surtout de la 80% de ma galerie photo, mais pas automade ou quoi que ce soit. Donc on t'écoute.
Alors,
pour la définition.
L'automade, c'est un style de YouTube poop.
Oui,
mais
okay.
Un peu à part, c'est-à-dire que dans ce genre de YouTube poop, on va tenter de faire des vidéos à la fois musicales et à la fois avec l'image. Donc on va tenter de faire des musiques avec directement des choses implémentées dans la vidéo.
D'ailleurs, il est important aussi de signaler que YouTube poop, en soi, c'est un terme pour désigner en fait beaucoup de montages humoristiques sur YouTube qui consistent à détourner, par exemple, je ne sais pas, un film ou même un dessin animé et pour faire parler les personnages d'un truc qu'ils n'étaient pas censés dire au départ et rendre le truc très drôle. Pour en avoir vu quelques-uns, moi,
oui,
ça me fait
c'est magnifique. Moi, j'adore aussi toutes les catégories qu'il y a à côté, comme le MLG et justement ce qu'on va parler, l'automade. Alors, du coup, très vite, les vidéos de Billy sont détournées sous forme d'automate, comme on a dit. Les vidéos se propagèrent très, très, très rapidement sur le web japonais, si bien que les vidéos tournées par Billy deviennent une véritable icône de la pop culture là-bas.
D'accord.
Les vidéos tournées avec Billy finissent même par se faire appeler sous forme de Gachimuchi. Sous la forme de Gachimuchi, qui veut dire en japonais Gachi pour agripper et Muchi pour pulpeux.
Oh oui.
Ah oui, d'accord.
Et faut savoir aussi un truc, c'est que vous avez regardé un petit peu de What the Cut, j'imagine, sur Internet.
Entend
souvent Antoine Daniel se plaindre du fait qu'il y a trop de bodybuilders sur l'Internet japonais.
Exactement.
Et bah, c'est à cause d'eux.
Ah, d'accord.
Tout ça vient d'eux, c'est une référence à Gachimuchi depuis le début.
Eh ben, c'est pour ça, moi j'ai envie de faire un petit coucou à Gab qui nous écoute actuellement, qui est également très fan de What the Cut et qui, je pense, apprécie énormément ta chronique, mon cher Alexandre.
Merci. Et c'est un gros bisou à Gabin, bien sûr. Il a fallu très peu de temps avant que ces vidéos se propagent sur le web occidental, bien sûr, et que eux aussi se mettent à faire des photomontages et des vidéomontages sur les Gachimuchi.
Ça, après, c'est toute l'image que le Japon a donnée à l'Europe occidentale, et même aux États-Unis, hein, vraiment, que des vidéos un petit peu bizarres, et des fois on est là, on fait on comprend rien à ce qui est écrit sur la vidéo, mais...
C'est l'univers japonais.
C'est un peu plus marrant.
C'est très très marrant.
Qu'est-ce que c'est que cette pub? Qu'est-ce que c'est que cet extrait? On ne comprend rien.
Pourquoi il fait ça? Ah, ok.
Ah, c'est pour une pub Ok, c'est pour des pâtes.
C'est pour le Japon.
Ok.
Au fur et à mesure du temps, des montages et des films érotiques qui ont été ajoutés à la véritable base de données, un véritable univers Gachimuchi s'est développé avec plein de personnages musculeux et huileux. On a bien sûr Billy Hangtom, surnommé Aniki, qui veut dire grand frère en japonais, mais on a aussi le sulfureux Danili, le colérique Boliante, la drag queen Chichi de la rue et le très moussant Ricardo Milos, qui a d'ailleurs eu un revival ball il n'y a pas longtemps, mais qui de base vient de Gachimuchi.
Pardon, mais les pseudos, moi, ça me...
J'adore.
Ils sont incroyables.
Ouais, moi, je m'en reviens pas, là.
Et bien sûr, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez regardé, traîné un peu sur Internet, la fameuse tête de bébé qui permet de censurer.
D'accord.
Ça vient aussi de Gachimuchi.
Ok, d'accord. Mais alors vraiment, on est sur une génération de trucs qui est
impressionnant.
Oui, impressionnant, je trouve ça incroyable.
C'est génial. Mais il a fallu attendre 2013 pour que Gachimuchi s'exporte véritablement à l'Occident avec l'International Wrestling Festival. Alors, qu'est-ce que c'est? L'International Wrestling Festival, c'est un festival qui a pour but de faire une YouTube poop musicale collaborative entre des gens à travers le monde, partout à travers le monde, mais des gens qui ont plusieurs spécialités, c'est-à-dire qu'on a des musiciens, on a des monteurs, on a des graphistes, on a des animateurs, on a plein de catégories, et le but, c'est de faire une YouTube poub géante de presque 10 minutes.
D'accord, et International Wrestling Festival, il se trouve ?
C'est sur Internet, c'est sur YouTube.
Que sur Internet,
d'accord. Tout est disponible sur YouTube.
Okay.
Et c'est une fois par an.
Bravo Internet, oui.
Et depuis 2013, presque tous les ans, on a un nouveau International Wrestling Festival sur YouTube, reprenant à chaque fois des œuvres de la pop culture, et là, tout y est passé. On a eu bien sûr des reprises de musique connue comme Vamos a la Playa, Don't Snub Me Now, mais on a bien sûr eu des reprises de jeux vidéo, évidemment parce qu'on est sur Internet et qu'on est une bande de geeks.
Ce serait pas drôle sinon.
On a eu des trucs assez classiques comme du Mario, du Kirby, mais des trucs un petit peu plus exotiques comme du Persona 5 ou Chrono Trigger, qui sont d'ailleurs mes deux jeux préférés.
D'accord.
Eh ben... Voilà, vous savez quoi m'offrir pour mon anniversaire, bien
sûr. Ok, alors attends, tu disais... Alors... ouais, ok.
Mais aussi des références à des openings d'animés, d'autres mêmes qui sont venus s'ajouter aussi. On a aussi des références à des films. Bref, ça donne un concentré épileptique d'inventivité et tout ça super bien orchestré par des véritables tarés super compétents venant d'à travers le monde et tout ça à partir d'un porno gay.
Et ça, franchement, c'est aberrant. Alors moi, je connaissais les YouTube Rewind, vraiment où ça prenait toute l'actualité. Voilà. Et alors là, après, on a trouvé un Rewind, mais vraiment, on est sur un level up. On est vraiment sur quelque chose de plus impressionnant.
Vraiment, je vous invite à regarder ça, c'est...
Écoutez, s'il y a des courageux, moi, dont moi d'ailleurs, je pense que je vais aller me regarder une ou deux vidéos juste voir ce que ça donne. Hein,
c'est merveilleux.
Ah, franchement, ma future insomnie, je sais quoi regarder. Hein.
Merci. La dernière fois, je vous ai parlé d'une œuvre qui s'appelait Fouli Couli. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Et oui, bah, j'en
Fouli Couli était également une œuvre assez décalée, japonaise, qui transpire l'inventivité et pour laquelle il valait mieux pas trop réfléchir et plutôt déconnecter son cerveau lors de son visionnage.
D'accord.
Là pour Gachimuchi, c'est à peu près pareil. Vaut mieux un petit peu se déconnecter et se laisser submerger par le flot de what the fuck constant qu'apporte la vidéo et en laissant échapper de temps en temps quelques petits mots comme « Haha, c'est marrant » ou alors « Ah, je comprends que dalle ».
Mais dis donc, ok, bon, c'est pas grave, on va passer, on va regarder.
Regardez, et puis tout simplement profiter de l'instant et des nombreuses références qui jalonnent les vidéos.
Très bien.
Aussi, l'International Wrestling Festival est assez novateur parce qu'il s'agit de l'ancêtre d'un type de vidéo que j'affectionne tout particulièrement, que l'on appelle les YouTube poops musicales collaboratives. Parce que vous croyez vraiment qu'Internet allait se limiter à un seul rendez-vous annuel ?
Non,
il y en a plein ce genre de rassemblements. On a bien sûr l'Octogone. Octagone, qui est en fait une reprise de Elmo, comment ça s'appelle ?
Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus.
Sesame Street,
mais...
voilà. De Elmo Sesame Street et de l'acteur Jack Black qui décrivent un octogone. Et plein de montages ont été faits là-dessus.
Ah, c'est super.
Bien sûr les reprises de Old Spice.
Alors, ça ne dit pas grand-chose.
Old Spice, c'est une pub de déodorant et des pubs très connues qui ont été faites avec un acteur américain qui s'appelle Terry Crews.
D'accord.
Qui sont extrêmement drôles déjà de base, mais en plus, avec le montage, c'est incroyable. Mais on a parfois aussi des collaborations plus locales. Comme en France, on a une collaboration qui s'appelle Les Truands de la Collab.
Ah, ça me dit rien du tout, vas-y, dis-nous tout.
Alors, un petit indice, cette collab sort une fois par an, le 21 août.
D'accord.
Pour être précis, et c'est le jour de l'anniversaire de Morsaille.
Ah là là, alors Morsaille, s'il faut faire un petit récapitulatif de sang qui ne connaissent pas Morsaille, c'est un rappeur, non, de base, c'est pas ça ?
C'est un clasheur.
Mais il s'est surtout fait connaître sur Internet avec YouTube et tout, donc c'est vraiment c'est un truc incroyable, ça.
Oui, non mais c'est Morsaille, quoi.
Ouais, là, tout à fait.
Et du coup, chaque année, une vidéo sort pour l'anniversaire de Morsaille. Bref, évidemment, je vous invite très chaleureusement à aller regarder l'entièreté d'International Wrestling Festival. Et en particulier la dernière vidéo qui est sortie cette année pour le nouvel an est comme toujours incroyable et mieux que celle de l'année d'avant et en plus elle a été saluée par l'un des acteurs du film original. Malheureusement Billy Harrington est mort en 2018 d'un accident de voiture mais a quand même pu se rendre au Japon pour la dernière fois et voir ses fans en 2016 en faisant une tournée globale au Japon et là où ses films sont devenus une véritable icône de la pop culture.
D'accord.
En tout cas, merci de m'avoir écouté.
Avec grand plaisir, merci Alexandre.
Et malheureusement, cette émission se termine ce soir sur ça.
Déjà.
Mais ne vous en faites pas, ça sera pour une prochaine fois. Et on n'hésite pas à embrasser tout le monde dans sa globalité. Et on vous laisse bien sûr avec Flyday de Chinatown, Flyday Chinatown de Yasua.
Et ben merci à tous et puis à la semaine prochaine.
Bah, bonne soirée.
À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.
Et bisous. L'émission Schizophrénia arrive dans quelques minutes. Bonne soirée.
Bonne soirée.